Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et alors que se dessine une bataille entre progressistes et nationalistes lors des élections européennes, le philosophe Michael Fessel établit un parallèle entre la période actuelle et 1938. Si ces mondes sont incomparables, cette référence sonne comme une alerte sur l'affaiblissement de notre démocratie. Bonjour Michael Fessel.
Bonjour.
Vous publiez donc un ouvrage intitulé « Récidive 1938 » aux presses universitaires de France. Dans cette revue de presse international, on a par exemple parlé de la situation en Ukraine, où on voit un comique, Zelensky, être sur le point d'entrer peut-être dans le palais présidentiel ukrainien. S'agit-il véritablement d'une répétition à cet égard des années 30, ou a-t-on affaire à une véritable évolution, puisque on voit que finalement les dictateurs aujourd'hui, quels qu'ils soient, je ne dis pas d'ailleurs que Zelensky en sera un, mais en tout cas on voit justement bien que les phénomènes politiques auxquels on a affaire sont a priori très différents de ceux que vous décrivez dans 1938 comme les prémices de régimes autoritaires.
Alors, dans 1938, je me suis intéressé à la France, hein, pas à d'autres pays. Pour ce qui est du devenir un petit peu spectaculaire de la politique et du fait que, on l'a vu en Italie, on le voit visiblement en Ukraine, des personnages, on l'a vu aux États-Unis, des personnages totalement inattendus, hors du milieu politique traditionnel, prennent le pouvoir. Je n'ai pas, évidemment, le désir de faire des parallèles permanents, mais il est clair que cette montée en puissance de certains outsiders, qui en général se révèlent d'ailleurs être des personnages très autoritaires, n'est pas non plus sans rappeler la possibilité, hélas, qu'a ouverte dans les années 30 l'accès au pouvoir de personnages totalement déclassés ou en tout cas hors du champ politique et surtout qui jouent, ce qui est certainement le cas, je ne suis pas spécialiste du tout de l'Ukraine, qui jouent le dépassement des clivages politiques traditionnels entre la gauche et la droite et qui viennent greffer leur discours sur une certaine forme de défiance à l'égard de la politique traditionnelle.
Qu'est-ce que le passé, notamment le passé le plus terrible, Michael Fessel, peut nous apprendre sur la situation actuelle?
Le passé le plus terrible, 38 en France, n'est pas encore le plus terrible. Le plus terrible est encore à venir.
On connaît la suite.
On connaît la suite, effectivement. Mais quand j'ai écrit le livre, j'ai fait comme si je ne la connaissais pas, évidemment, avec le caractère fictif de cette méthode, mais en me mettant dans la tête, si je puis dire, voire dans le corps de quelqu'un qui découvrirait la presse de 1938 en France. Et ce que cela nous apprend, c'est qu'une démocratie qui est, il faut le rappeler, 1938, c'est 10 ans après la crise de 1929, la crise économique généralisée. Une démocratie qui est en quelque sorte mise sous le stress de cette crise produit des effets autoritaires, des effets, disons, de radicalisation dans le discours qui m'ont semblé ne pas être totalement sans écho avec les nôtres. Non pas du tout au sens où les événements se répéteraient, mais où les formes d'interprétation de ce qui se produit cette année-là ressemblent parfois à celles que nous avons vécues ces 10 dernières années.
Alors, on ne va pas prendre point par point les ressemblances et les différences, les ressemblances que l'on peut trouver dans Récidive, donc votre récit de l'année 1938. Néanmoins, il y a une chose qui saute aux yeux, notamment par rapport à ce que l'on a vécu ce week-end, sont des manifestations lancinantes, là en l'occurrence les Gilets jaunes. On voit qu'il y a d'autres manifestations en cours dans les années 30 en France. Comment justement réussir à saisir ces deux phénomènes dans leur singularité et peut-être aussi dans leur ressemblance?
Alors pour ce qui est des Gilets jaunes, la singularité est évidemment sociologique parce que les manifestations qui avaient lieu dans les années 30 en France étaient des manifestations essentiellement de type ouvrier. Il y avait une classe ouvrière dans le sens, je dirais, classique du terme, certainement marxien du terme, pas seulement, qui n'existe plus aujourd'hui. Il y a des ouvriers mais non plus comme classe. Les solidarités se constituent de plus en plus aujourd'hui autour des ronds-points, je dirais, que dans l'usine. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en 38, en tous les cas, c'est la fin du Front populaire, donc il y a une politique sociale ou économique qui est adoptée, qui est totalement opposée à celle de 36, et il y a une tentative de réaction des syndicats et il y a une grève générale, elle avorte le 30 novembre et elle fait l'objet d'une très grande répression d'ailleurs de la part du gouvernement Daladier. Ce qu'il y a de commun, ce n'est donc pas le phénomène comme tel, les Gilets jaunes encore une fois n'ont rien à voir avec les manifestants ouvriers de 38. Ce qu'il y a peut-être qui donne à penser, c'est cette idée que la fête est finie, que finalement on ne peut plus se permettre un état social qui soit un état social social plus généreux, que la France n'a plus les moyens, dans un contexte international marqué par la montée des pays, pour le coup, totalitaires, aujourd'hui plus autoritaires, que la France doit, d'une certaine manière, retrouver là le sens de l'effort. Je ne fais que citer des leitmotifs de cette année, 38, elle doit se remettre au travail, et qu'il y a, en un sens, une volonté de ne pas prendre en compte la question sociale, ou en tout cas de la laisser relativement dans l'ombre, face à la montée des périls qui s'annoncent. Autrement dit, de reconstituer quelque chose comme une identité nationale, mais qui serait post-partisane, qui ignorerait les différences sociales ou les différences de classe.
Vous dites qu'il y a effectivement une sorte d'appel à la rigueur. Rigueur avec, là aussi, la duplicité du terme, c'est-à-dire à la fois sur le plan économique, une politique rigoureuse, mais aussi on voit bien qu'il y a une injonction morale. On l'a en 1938, on l'a un peu aujourd'hui.
On a aujourd'hui cette idée, en tous les cas, pas aujourd'hui, dans cette année spécialement, depuis une dizaine d'années, on a tout de même une conjonction, je dirais, entre des mesures plutôt de type néolibéral ou de dérégulation économique, en tout cas de libération du travail et du capital, comme on le dit, conjonction entre donc des mesures de ce type et puis des mesures qui sont des mesures, si on se prend en place du point de vue cette fois-ci de l'état de droit ou des aspects juridiques de notre constitution, des mesures de type sécuritaire. Je rappelle, en 20 ans, 20 lois de type sécuritaire, c'est-à-dire reprenant sur des questions diverses d'ailleurs, revenant sur un certain nombre de libertés publiques. Autrement dit, là aussi, il y a quelque chose comme la naissance, dans deux contextes, et j'y insiste évidemment différents, d'une forme de libéralisme autoritaire, c'est-à-dire que pour que des mesures sociales relativement impopulaires, elles l'étaient hier et elles semblent l'être aussi depuis quelques années en France, pour qu'elles passent, eh bien, il y a ce sentiment qu'il faut, par compensation, en quelque sorte, donner à une opinion publique qu'on suppose chauffée à blanc dans ce domaine, lui donner satisfaction dans le domaine de l'ordre ou de la remise en ordre du pays.
Et puis, il y a là aussi d'autres points communs ou d'autres différences, d'ailleurs, et j'aimerais vous entendre là-dessus. François Hollande, hier, a dit qu'il était certain qu'à terme, l'extrême droite pourrait gouverner la France. Est-ce la même extrême droite que celle à laquelle on avait affaire en 1938? Vous rappelez d'ailleurs des chiffres qui sont tout à fait étonnants, notamment le tirage de la presse. Alors ça, au global, c'est plusieurs millions d'exemplaires. Les hebdomadaires d'extrême droite à l'époque, c'est 1 million d'exemplaires par semaine, ce qui témoigne de l'importance des médias d'extrême droite. Et puis, quelle extrême droite, quelle différence, quel point commun entre l'extrême droite d'hier et celle d'aujourd'hui, Michael Fessel?
Alors, les médias d'extrême droite, effectivement, tiraient à de très forts exemplaires, à l'instar, je dirais, de la presse écrite de l'époque. Aujourd'hui, ils sont résiduels, pour une grande partie d'entre eux. Ensuite, faudra-t-il encore regarder du côté, je dirais, des autres sources d'information, en particulier Internet, pour se rendre compte que ce qu'on appelle, à tort ou à raison, la fachosphère, se porte plutôt bien. Alors, il ne s'agit pas de la même extrême droite, pas plus qu'il ne s'agit de la même politique de type libéral. Simplement, il s'agit, à mon sens, d'une analogie, c'est-à-dire que ce sont des mouvements, à mon sens, réactifs à l'égard ou à l'endroit, ou à l'encontre d'ailleurs, d'une politique qui est menée depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'en France, il faut le noter, 38, de ce point de vue-là, est intéressant parce que l'extrême droite, même si la presse d'extrême droite tire à de forts tirages, n'a jamais réussi à s'implanter électoralement en France. Cela, on le doit, à mon sens, au Front populaire, c'est-à-dire à cette alliance qui a permis, en quelque sorte, de fixer la classe ouvrière et une grande partie des salariés ou des classes moyennes derrière un projet dont on pense ce que l'on veut politiquement, mais qui reste un projet démocratique. Alors que l'extrême droite d'aujourd'hui n'a plus à faire, bon, pour tant de quantité de raisons, en particulier la faiblesse intrinsèque des partis de gauche, je parle de la France, elle n'a plus à faire à une opposition autre que celle du camp, disons, des progressistes, de ce qu'on appelle les progressistes. Alors, évidemment, ce n'est pas la même extrême droite. Elle a rempli, je dirais, toutes les cases de la dédiabolisation. On n'est pas obligé d'en être totalement dupe, d'ailleurs. Mais cela étant, elle a intégré à son logiciel, si j'ose dire, du moins celle qui se présente aux élections, un certain nombre des principes de la République. Cela ne veut pas dire qu'il ne faille pas la craindre, et en particulier qu'il ne faille pas craindre ce qui était déjà présent, me semble-t-il, en 38, c'est-à-dire cette idée qu'il n'y avait qu'une seule alternative, par conséquent deux termes possibles, soit une république forte sur ses bases, mais y compris dans ses dimensions un peu autoritaires et plutôt libérales sur le plan économique, soit l'abandon au pays, à des pays de type autoritaire.
Ah oui, vous pensez que finalement cette alternative-là qui est agitée, elle était déjà présente dans les mêmes termes dans les années 30
On parlait pas des progressistes, on parlait des nationalistes, ce qui d'ailleurs, d'une certaine manière, permet, parce que l'extrême droite de l'époque s'appelait déjà les nationaux. Mais ce qui était présent dans l'argumentaire politique pour justifier cette... Disons, ces reniements à l'égard du Front Populaire ou cette transformation. Il faut rappeler que le gouvernement d'Aladier vient non pas à la suite d'élections, mais d'un changement d'alliance. Le Parti radical choisit de s'allier avec la droite. L'argument principal que j'ai trouvé, que je cite longuement, c'est que la France, face aux périls qui montent, mais les périls, c'est la guerre, mais c'est aussi l'idée qu'on est face à des États où il n'y a ni syndicats, ni durée légale du travail, où il n'y a pas d'élections, où il n'y a pas de parlement. Donc la France est en quelque sorte, pour se sauver comme république, doit revenir sur un certain nombre de ses principes démocratiques. D'où le fait, par exemple, que l'on ne gouverne quasiment plus en 38 que par décret-loi, autrement dit que le Parlement ne se réunisse plus, une centralité, si vous voulez, du pouvoir exécutif à ce moment-là, qui m'a interpellé, si je puis dire, bon, moi je fais de la philosophie et pas de l'histoire, mais en philosophie politique, il y a cette idée, depuis Platon, que la démocratie est intrinsèquement fragile, que c'est parce qu'elle est le régime de la discussion permanente, le régime de la délibération, où chacun donne son opinion, qu'on n'y décide jamais rien, finalement, elle est fragile. Eh bien, cette idée, on la retrouve dans les thèses qui disent, après tout, et on les retrouve encore aujourd'hui, on a perdu en 40, ou on les trouvait d'ailleurs déjà en 40, on a perdu la guerre parce que les démocraties sont fragiles, les accords de Munich, face à des pays autoritaires où il y a un chef qui, au moins, prend les décisions. Bon. En réalité, il me semble que les démocraties ne sont pas fragiles, enfin, en tout cas, elles ne sont pas faibles, elles sont fragiles, sans doute, elles ne sont pas faibles intrinsèquement, sauf si on les affaiblit. L'exemple de l'Angleterre étant ici d'ailleurs parfaitement, je crois, intéressant. Parce que l'Angleterre a maintenu son système parlementaire spécifique, hein, bien sûr, mais enfin tout de même démocratique, parfaitement en usage. On y a même changé d'ailleurs, de Premier ministre à la veille de la guerre, hein, en passant de Chamberlain à Churchill. Tandis qu'en France, dès 1938, on commence à parler de la prorogation de l'Assemblée, autrement dit du fait qu'on va repousser les élections de 2 ans, ce qui sera d'ailleurs décidé en 39, parce qu'il y a toujours cette idée que on ne peut pas se permettre de discuter, de délibérer, de laisser le Parlement, voire les électeurs d'ailleurs, se prononcer lorsque nous sommes ou parce que nous sommes dans une situation de crise.
Et il y a un événement dont on se souvient trop peu, dites-vous, Michael Fossel. Cet événement, c'est Munich, avec la manière dont aujourd'hui on le célèbre peu, peut-être qu'on en a honte. Qu'est-ce que l'on peut réussir à penser au travers de Munich, hier et aujourd'hui, justement?
Les accords de Munich, c'est tout de même l'événement le plus connu de 38, quand on connaît quelque chose. Et précisément, on le présente souvent, et partie avait raison, comme la preuve de la faiblesse de la démocratie, puisque c'est le moment où l'Angleterre, d'ailleurs, pour le coup, Chamberlain du moins, et Daladier, la France, abdiquent, en quelque sorte, sur l'accord qui, en tout cas, est existé entre la Tchécoslovaquie et la France, l'accord de défense militaire, et où Hitler peut s'emparer de la région des Sudètes sans aucune difficulté. Alors, évidemment, il y a une abdication. Je veux dire, là, pour des raisons qui, du point de vue de Daladier, sont d'ailleurs tout à fait compréhensibles et que je veux bien admettre, à savoir la France n'est pas prête pour faire la guerre, il faut gagner du temps. Et bon, simplement, ce que j'ai découvert, c'est que les accords de Munich ne sont pas seulement, je dirais, un événement de politique internationale. Il y a une porosité très grande entre la politique intérieure et la politique internationale, puisque ces accords de Munich sont souvent aussi interprétés dans la presse, plutôt la presse conservatrice, comme nécessaire. Bon, la presse conservatrice est à une exception auquel je rends un hommage particulier, qui s'appelle Henri de Kérilis. La presse conservatrice est unanimement
Henri
favorable.
Henri de Kérilis, qui est un homme de droite, dur, qui sera anti-pétiniste, qui a toujours refusé l'antisémitisme.
Même s'oppose aux accords de Munich, et il est le seul à ce moment-là quasiment.
Vous chantez ses louanges, effectivement, dans ce livre. Être munichois aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait, Michael Fessel ?
Ah bah, être munichois...
Parce que c'est souvent, évidemment, une insulte qui est agitée dans les polémiques. Par exemple, par rapport à l'islam radical, on a pu en parler. Est-ce que ça a un sens d'être munichois?
C'est là, justement, bon, comparaison n'est pas raison. C'est que je me méfie de cette affirmation, ou de cette attaque d'ailleurs. Être munichois, on l'a entendu à tort et à travers. Être munichois en 38, c'est, je le répète, pas seulement vouloir l'alliance à tout prix avec les forces d'extrême droite. C'est aussi vouloir, en quelque sorte, prendre sa revanche un peu sur le front populaire, c'est-à-dire évacuer le risque de guerre, pour pouvoir régler la question interne.
Et puis aussi être pacifiste, parce que avec dans la mémoire la guerre de 14-18 et ses atrocités.
Ça, c'est ce qui explique sans doute que dans l'opinion publique, les accords de Munich soient accueillis avec faveur. Encore qu'il faut noter que le premier sondage réalisé en France, c'est sur les accords de Munich par la toute jeune IFOP, et que 57% des Français y sont favorables, 36% y sont défavorables. Mais 57% des Français favorables, c'est quand même moins que les journalistes ou les hommes politiques. Ce qu'il y a, c'est que souvent, il y a cette idée qui s'installe qu'en réalité, la véritable bataille, elle se joue au niveau intérieur et qu'il faut laisser la guerre de côté pour pouvoir, en fait, mener une politique, disons, beaucoup plus identitaire ou nationale.
Michael Fessel, récidive 1938 aux Presses universitaires de France. Dans quelques instants, on va se demander en votre compagnie et en compagnie également du journaliste Gérard Courtois qui publie La fin d'un monde, chronique politique, 10 ans de chronique politique. Qu'est-ce qui a changé plus récemment, et qu'est-ce qui pourrait faire que cette situation politique que nous avons sous les yeux, Michael Fessel, soit inédite ou bien au contraire soit réductible à des événements que l'on a déjà connus? Face de vous se trouve le philosophe Michael Fessel pour son livre Récidive 1938. On va tenter de voir quels sont les points de ressemblance entre la période que nous vivons, l'affrontement entre progressistes et nationalistes ou populistes, et ce que l'on a vécu jadis. Et puis Gérard Courtois, journaliste politique, vous publiez vos chroniques depuis 10 ans, La fin d'un monde. C'est publié en poche chez Timpus. Le remaniement, c'est une figure de style. Commenter un remaniement et un remaniement de ce type, que diriez-vous, Gérard Courtois?
J'ai l'impression qu'on a à peu près entendu tout ce qu'on doit entendre dans ce genre de situation. C'est-à-dire, du côté du gouvernement ou de la majorité, souligner les éléments de jeunesse, de compétence, de confiance des trois entrants. Du côté de l'opposition, la consanguinité, la technocratie. Enfin bon, moi, ce qui me semble évident, c'est que ça n'était pas le moment d'un remaniement politique important. Il y avait trois départs pour des raisons diverses. Il y a trois entrants. On est dans une période où, à mon avis, le temps politique est suspendu à la fois à la sortie du grand débat et aux européennes. S'il y a des décisions ou des changements d'organisation sérieux, profonds, ou voire de changement de cap, ce sera à partir du mois de juin. Une fois passées ces deux échéances majeures. Là, on est dans un remaniement technique qui va au plus simple et au plus, je dirais, au plus évident pour Macron, c'est-à-dire prendre des gens en qui il a toute confiance.
Si l'on essaye de regarder là aussi ce qui s'est passé ce week-end, Emmanuel Macron était en compagnie de Nicolas Sarkozy au Glière, et votre livre s'ouvre sur des chroniques que vous avez rédigées à l'époque où Nicolas Sarkozy était au pouvoir, et il y a des phrases qui sont assez étonnantes dans le portrait que vous faites de Nicolas Sarkozy. Vous dites que Nicolas Sarkozy ne s'est pas contenté de préparer la conquête du pouvoir, il en a également repensé l'exercice à l'ère du quinquennat et de la démocratie d'opinion. Il y avait à l'époque l'idée selon laquelle Nicolas Sarkozy était profondément disruptif. Si l'on tente justement une comparaison entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, la manière dont ceux-ci incarnent la fonction présidentielle et aussi la manière dont la démocratie a évolué entre ces deux personnages.
Je pense que ils sont d'une certaine manière dans la continuité l'un de l'autre. Sauf qu'ils ont été, l'un et l'autre, dépassés par le changement de rythme du temps politique et le changement de nature de la communication politique. Nicolas Sarkozy, on s'en souvient, était dans ce qu'on appelait à l'époque le storytelling, c'est-à-dire une sorte de feuilletonnage permanent de son action, de mise en scène de lui-même. Et au bout de 3 ans, il a été obligé d'essayer de réinventer une forme de présidentialité, de solennité, d'autorité, etc., parce qu'il avait totalement trivialisé, dans cet exercice permanent de communication, trivialisé la fonction. Emmanuel Macron a été au fond dans le même type d'ambition, c'est-à-dire de maîtrise absolue de la communication, et une telle maîtrise qu'il a fini par se couper complètement, par apparaître extraordinairement artificiel dans sa communication. Je pense que l'un et l'autre ont été, on pourrait analyser la situation d'Hollande entre les deux, mais l'un et l'autre, Sarkozy et Macron, ont essayé d'aller plus vite que la musique, et la musique a été plus vite qu'eux. Et je pense qu'ils ont été l'un et l'autre pris à contre-pied ou à revers par l'exercice qu'ils ont fait du pouvoir.
Tiens, François Hollande, justement, dans le commentaire politique du week-end, François Hollande a expliqué qu'il y avait, selon lui, plus qu'un risque que l'extrême droite gouverne la France. Un commentaire à ce sujet, Gérard Courtois.
La prophétie autoréalisatrice, c'est un exercice compliqué et, à mon avis, dans le cas d'un ancien président, pas très responsable. J'aurais préféré...
Pourquoi fait-il cela ?
Pour vendre l'édition de poche de son...
Non, parce que vous-même, vous avez édition de poche et vous n'allez pas...
Je suis pas en train de dire que l'extrême droite va arriver au pouvoir demain. Et je suis pas ancien président de la République, accessoirement. Non, je trouve étonnante cette manière de se projeter dans quelque chose, dans une situation, dans une perspective qui devrait, me semble-t-il, au contraire, être écartée de manière absolument radicale par quelqu'un comme François Hollande. Et il la présente comme une sorte de fatalité. Personnellement, ça m'a heurté. J'ai trouvé ça très surprenant qu'il ne soit pas plus, je dirais, pugnace ou plus raide dans son analyse de la situation politique.
L'idée, c'est vraiment une proposition au hasard qu'il y ait un homme, un seul, qui puisse faire rempart contre l'extrême droite en France, par exemple François Hollande.
C'est une idée qui supposerait un renversement de l'histoire assez spectaculaire.
C'est possible, mais peut-être que c'est l'idée qu'il a de son esprit.
Disons que il fait la démonstration, François Hollande, depuis plusieurs mois, avec son livre, sa tournée des librairies de France et de Navarre, et maintenant plus une deuxième saison de la tournée des libraires, plus une tournée des lycées pour parler de l'Europe. Il fait en tout cas la démonstration que le pouvoir est une drogue très dure et que le sevrage de cette drogue est encore plus difficile.
On voit aussi, au travers de ces différents exemples que l'on a évoqués, Michael Fessel, des présidents qui n'ont pas pu se représenter, des présidents qui se sont représentés mais qui n'ont pas été élus, bref, différents cas de figure. On voit que la classe politique est conspuée, ce qui, là, est quelque chose qui rejoint ce que vous évoquez dans Récidive 1938, où on voit que le personnel politique, à cette époque, n'est pas véritablement loué.
Non, pas vraiment. Il y a effectivement tout un contexte qui est un contexte antiparlementaire extrêmement fort en France, hein, dont le moment le plus important, ce seront les émeutes du 6 février 1934, mais qui est encore présent 4 années plus tard. Un antiparlementarisme d'ailleurs qui vient d'en bas et qui vient parfois aussi d'en haut. C'est-à-dire que en réalité, il y a cette demande d'autorité, de centration ou de centrement du pouvoir sur l'exécutif. Et puis quelque chose qui me paraît très caractéristique aussi de cette année, c'est cette volonté au fond de sortir du clivage droite-gauche considéré comme tout à fait inconvenant en quelque sorte dans une période de crise au bénéfice d'une valorisation de l'identité nationale, de l'identité culturelle et de l'identité tout court de la France parce que on est dans un moment où effectivement on peut penser que l'urgence politique, l'urgence même de guerre qui à ce moment-là évidemment est à l'horizon, cette urgence fait que les débats parlementaires, la discussion, les palabres, comme on le lit en permanence d'ailleurs dans une certaine presse, les palabres parlementaires ou entre députés ne sont plus de saison. Il est temps de retrouver une unité au-delà de la gauche et de la droite. Et c'est ce qui me paraît être une démocratie au-delà de ce clivage gauche-droite m'inquiète, en ce sens qu'il faut inventer nécessairement, il n'y a pas de politique sans clivage, d'autres clivages qui sont peut-être plus préoccupants.
Gérard Courtois, justement là-dessus, cette comparaison avec les années 30, avec une classe politique qui est disqualifiée, avec, bon, ça c'est une différence importante, la peur de la guerre qui mobilise en 1938, peur de la guerre qui aujourd'hui a disparu, nous avons peur, mais on n'a pas peur de la même chose.
Oui, je pense que, enfin, pour moi, 1938, c'est quand même, enfin, et les années 30, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une continuité. Il y a certes la crise économique mondiale, mais le paysage général, c'est la continuité par rapport à la Première Guerre mondiale et à sa résolution et à ses suites aux frustrations que la résolution de la guerre à Versailles a créé. Je trouve qu'on est aujourd'hui dans une situation qui est totalement dans la discontinuité ou dans la rupture par rapport à il y a 10-20 ans. Pourquoi ? Parce que au fond, ce sont les plaques tectoniques qui ont bougé et qui n'ont pas bougé par des choix politiques, qui ont bougé par une espèce de dérèglement ou de mutation du monde. Je veux parler de la mondialisation de l'économie, de la crise climatique, de la crise démographique qui conduit ou qui alimente les phénomènes migratoires, de la révolution technologique qui est en train de faire basculer le centre névralgique du monde vers l'Asie, etc. Donc on est dans des changements de paysages extrêmement profonds qu'on ne maîtrise pas, par comparaison avec ce qui me semble être. Il y a eu évidemment des ruptures, et à commencer par l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933, mais je trouve qu'on est dans une sorte de continuité historique entre 1918-19 et 1938-39, et qu'on est aujourd'hui dans une période de rupture profonde qui crée du désarroi très profond dans les démocraties. Je pense que c'est une des causes évidente, élémentaire, des populismes qui montent sous des formes variées en Europe et ailleurs.
Mais justement, ce désarroi tel qu'on le voit dans les années 30, il va prendre des formes qui sont des formes extrêmes, sacrificielles. Lorsqu'on relie ce que vous évoquez, Michael Fessel, on voit que le nationalisme à l'époque n'est pas un vain mot. D'abord, ce mot nationalisme, il est porté après la guerre de 14-18 qui a été la boucherie que l'on sait. Il est également prêt à reprendre force et vigueur au travers donc de la guerre. Aujourd'hui, par exemple, l'horizon n'est plus du tout celui-là, c'est-à-dire que ce nationalisme, même lorsqu'il est question d'identité, celles-ci ne sont pas aussi sacrées, ne revêtent pas des formes de religion séculière.
Certes, mais les nationalistes français de 1938 ne veulent de la guerre à aucun prix. Ce sont les pacifistes. Hein. Ce ne sont pas des nationalistes agressifs, puisqu'ils sont confrontés à des États, l'Allemagne et l'Italie, bientôt l'Espagne, qui leur conviennent en tout point. Donc par conséquent, les plus pacifistes des pacifistes, ce sont précisément ceux qui, ultra-patriotes en principe, se présentent en réalité comme des défenseurs de la France éternelle, mais pas de la République française. Donc la République française, ils sont pour la plupart d'entre eux, à part, on l'a évoqué tout à l'heure, des personnages exceptionnels comme Kérilis, comme Bernanos, qui rompent d'ailleurs avec leur camp.
Il faut rappeler donc Kérilis, personnage de droite dure, mais néanmoins...
C'est député de Neuilly-sur-Seine, et qui va créer un journal, justement, pour quitter la presse dans laquelle il écrivait, voyant qu'il y avait une espèce d'amour pour l'Italie et l'Allemagne qui lui déplaît profondément, et créer un journal, l'époque, qui va être être extrêmement, comment dirais-je, intransigeant sur le fait que la défense de la France doit se faire indépendamment, en quelque sorte, du régime qui ne lui plaît pas spécialement, en l'occurrence républicain, et être, de ce point de vue, patriote. Alors, évidemment, le risque de la guerre intra-européenne n'existe pas, mais les aujourd'hui, heureusement, mais les effets quand même de radicalisation dans le discours, en particulier à l'égard de tout ce qui relève des politiques migratoires ou de la de ce qui est supposé remettre en cause l'identité française, sont quand même assez présents depuis des 10 ans que nous venons de vivre, depuis certainement Nicolas Sarkozy, qui avait créé un ministère de l'identité nationale, malgré tout. Alors, ce déplacement, je dirais, des questions sociales, économiques, traditionnelles, et même d'ailleurs des questions juridiques traditionnelles vers les questions identitaires et culturelles, ce n'est évidemment, je le répète, pas le même qu'en 1938, mais le problème qui se pose quand même à nous est de savoir est-ce que l'on peut, dans un cadre démocratique inchangé, régler des problèmes de nature identitaire.
Gérard Courtois, qu'est-ce que vous en pensez, justement, si l'on prend les 10 ans de vos chroniques, avec l'apparition, effectivement, d'un ministère de l'identité nationale, avec une question migratoire utilisée politiquement, à tort ou à raison, chacun en jugera.
Il y a tout ça. Pour moi, il y a, à la relecture de ces 10 années, il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris. C'est, au fond, tout était sur la table il y a 10 ans. Tout ce qu'on dit aujourd'hui à propos du mouvement des Gilets jaunes et de...
Quoi, par exemple ?
La crise de légitimité du pouvoir, la crise d'efficacité du pouvoir. C'est les deux crises majeures qui sont à l'œuvre depuis 10 ans. Alors, elles sont à l'œuvre à cause de la crise économique de 2008 à 2016, c'est évident, mais elles sont aussi à l'œuvre à cause d'une rupture du contrat de confiance entre les gouvernants et les gouvernés.
Quel procès d'illégitimité, par exemple, pour Nicolas Sarkozy à l'époque ?
Mais le procès d'illégitimité, on l'a oublié, il est permanent, il est immédiat. On a oublié la violence des réactions à l'élection de Nicolas Sarkozy. Et alors, il y a un autre thermomètre, au fond, de cette illégitimité croissante des présidents. C'est leur niveau de confiance moyen au bout de 2 ans, par exemple. Chirac, au bout de 2 ans, on est juste avant le Chirac première époque, si je puis dire, premier mandat.
Chirac dissolution.
Et pourquoi procède-t-il à la dissolution ? Parce qu'il croit à un petit rebond. Le petit rebond de popularité de son gouvernement et de sa majorité, on est autour de 35-37%. Au bout de 2 ans, Nicolas Sarkozy est descendu à 30. Au bout de 2 ans, François Hollande est descendu à 20. On est dans une sorte d'érosion structurelle de la légitimité du président de la République pour simplifier et du pouvoir en général. Et on est dans une crise d'efficacité de l'action qui est tout aussi évidente et qui est plus ancienne. Je veux dire, ça fait 30 ans. Non, pas 30 ans. Je pense que le dernier moment où les Français se sont dit l'action politique est efficace, c'est une conjonction de chance et d'action, c'est le gouvernement Jospin. On diminue le chômage d'un million.
Mais on pourrait vous rétorquer, Gérard Courtois, que François Mitterrand a terminé son deuxième mandat dans un état politique assez désastreux, qu'à l'époque aussi, il y avait quand même toute une série de doutes sur l'efficacité.
Il y avait des doutes. Je pense que la légitimité des présidents n'était pas à ce point atteinte et remise en cause comme elle l'est maintenant. Je veux dire, François Hollande, ça a été immédiat. C'est une sorte de procès en illégitimité fait par l'opposition et plus largement par le débat public qui s'est installé dès la rentrée de 2012. Emmanuel Macron a lui-même exprimé les choses en disant qu'il était arrivé par effraction. Donc il y a quelque chose. L'élection présidentielle n'établit plus durablement et établit de manière de plus en plus fugace une relation de confiance entre l'élu, les élus et le pays. Ça, je pense que c'est quelque chose qui s'est très réellement détérioré depuis 10 ans.
Justement, ce niveau de défiance vis-à-vis de la politique, avec toutes les critiques qui sont adressées à la démocratie, démocratie bavarde, démocratie impuissante, démocratie corrompu dans tous les sens du terme, à la fois financièrement mais aussi moralement. Alors ça, on les retrouve à l'identique en 1938, Michael Fossel.
Ah, il y a évidemment là beaucoup de poids commun, je dirais, dans cette, à la fois cet anti-parlementarisme, parce qu'on est quand même dans un régime parlementaire, donc à ce moment-là, c'est la figure du député, je dirais, qui est la plus remise en cause. La différence, je crois, parce qu'il y a beaucoup de différences, c'est que depuis 10 ans aussi, on voit bien que les hommes, enfin les présidents plus exactement, commencent toujours par vouloir représidentialiser la fonction, en quelque sorte. Hein. C'était le cas déjà de Sarkozy par rapport à Chirac, de Hollande qui a voulu la normaliser, mais tout de même parce qu'un président doit être normal, et d'Emmanuel Macron. Bon. Ça n'a pas fonctionné, au moins en termes d'opinion, je dirais, parce que il faut prendre la mesure aussi de ce quinquennat qui a en quelque sorte présidentialisé pour le coup le régime, mais dans le sens où le président est en quelque sorte à la manœuvre partout et tout le temps. Ce qui fait que dès lors qu'il y a, et c'est le cas aujourd'hui, une contestation forte de l'action gouvernementale, c'est le président qui est en première ligne. Et de ce point de vue-là, je crois quand même qu'on pourrait réfléchir aussi à la nature des institutions, puisque c'est structurellement, là je rejoins Gérard Courtois, qu'il y a une légitimation de la personne du président, qui, par rapport à 1938, a moins de pouvoir qu'un président du Conseil, il faut bien le reconnaître. Dans une période de crise, de facto, on subit plutôt, en tout moins en termes économiques ou en termes sociaux, qu'on ne peut agir. Mais du simple fait de l'intégration européenne, de toute une série d'évolutions liées à la globalisation, il y a une espèce de hiatus assez préoccupant entre l'adresse qui est faite au président comme à celui, la demande qui était faite au président comme à celui qui peut tout, et puis l'effectivité de ses pouvoirs auxquels il a parfois voulu, ou auxquels ils ont parfois voulu d'ailleurs, les présidents renoncer.
Mais alors, justement, il y a une interview dans Le Parisien de François Hollande, une interview publiée aujourd'hui, où il explique, il y a une citation de François Hollande sur la difficulté de gouverner la France, si l'on prend la Ve République, il y a eu des débuts de la Ve qui ont été fortement marqués par la personnalité de De Gaulle. Ensuite, le pays a été considéré comme plus ou moins gouvernable par Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing. Est-ce que cet état-là de la Constitution est définitivement perdu? Est-ce qu'on est redevenu, comme sous la Troisième République, un pays impossible à gouverner, Gérard Courtois?
Je suis d'accord avec ce que disait Michael Fossel à l'instant. Le quinquennat et l'inversion du calendrier en 2002 ont changé la nature du rapport entre le président et le pays. Ça me paraît tout à fait évident. Ça a évidemment changé le temps politique, mais ça a changé la nature de cette relation. Pourquoi ? Parce que auparavant, il y avait une espèce de solennité gaulienne du septennat, vécue à la fin des années 90 comme désuète, mais qui permettait au président d'être en surplomb de la vie politique, plus ou moins, d'avoir un filtre, un intermédiaire, un disjoncteur entre lui et le peuple. C'était le Premier ministre et le gouvernement. Ça a disparu. On peut estimer que la formule était très déplaisante, mais elle me paraît très juste. Quand Nicolas Sarkozy traite François Fillon de collaborateur, je crois que c'est la réalité maintenant du rapport entre le président et le Premier ministre. Et du coup, le dialogue, c'est un grand mot, la relation entre le président et les citoyens est devenue directe, sans filtre, totalement électrique, et on demande une chose et son contraire au président. Le mouvement des Gilets jaunes délégitime, conteste violemment la légitimité du président et ne s'adresse qu'à lui pour répondre aux revendications. On a l'impression que le gouvernement a disparu du paysage mental des Français. Il n'y a plus que le président.
Ce qui s'est fait quand même assez rapidement, puisque sous Chirac, par exemple, il pouvait y avoir des manifestations demandant la démission du Premier ministre, de Jacques Chirac. Absolument. Qui était Alain Juppé.
En 95,
aujourd'hui, le nom d'Édouard Philippe n'est pas prononcé du tout dans les manifestations.
Il semble passer entre les gouttes, enfin être au fond, sa personnalité et sa popularité sont indexées directement sur celle du président, mais ça n'est pas lui qui est tenu pour responsable ni de la situation, ni des solutions qui pourraient y être apportées.
Ce qui pose un problème parce que le gouvernement, contrairement au président de la République, est responsable devant le Parlement. Donc en réalité, quand on affaiblit le gouvernement, on affaiblit aussi le Parlement. Et par conséquent, et on l'a vu d'ailleurs au dernier remaniement que votre collaborateur a commenté tout
Frédéric
à l'heure.
Frédéric Seitz,
a commenté tout à l'heure, à savoir qu'on passe directement de l'Élysée au gouvernement, comme si la fonction de parlementaire était, en quelque sorte, n'était plus légitimante pour occuper une place dans l'exécutif. Et de ce côté-là, bon, je fais peut-être un peu ancien monde, enfin je dirais quand même qu'il y a une déperdition de plus en plus forte de ce qui de la légitimation par le lien électif en quelque sorte, parce qu'un parlementaire malgré tout a été élu et que ça constitue une base, je ne dis pas suffisante, loin s'en faut, mais enfin une base tout de même importante de probité politique.
Dans la comparaison, ou plutôt dans le voyage au travers des décennies que nous propose Michael Fessel, il y a aussi quelque chose d'étrange, c'est de se souvenir à quel point la presse a compté. Il s'agissait de millions d'exemplaires à l'époque, et Michael Fessel, vous fondez sur cette presse. En l'espace de 10 ans, Gérard Courtois, vous qui êtes journaliste au Monde, justement, est-ce que vous avez vu l'influence de la presse évoluer? Alors certes, maintenant, il y a Internet, mais les opinions et les sites d'opinion ne s'expriment pas de la même façon sur Internet. Quelles évolutions avez-vous notées sur cette période?
Une révolution complète de l'espace public médiatique. On le voit, on l'a vu à la fois chez les politiques et l'usage qu'ils ont fait des réseaux sociaux. Je pense par exemple à la campagne de Mélenchon ou celle de Macron d'ailleurs en 2017, et à la manière dont s'auto-organise un mouvement comme celui des Gilets jaunes, entièrement à l'écart. En tout cas dans sa conception et dans sa dynamique, à l'écart des médias traditionnels. Tout passe par les réseaux sociaux. Donc on est dans une mutation très profonde, mutation sur laquelle que la presse classique, média classique, accompagne, peuvent accompagner, et s'ils ne les accompagnent pas, cette mutation, ils sont condamnés à disparaître, tout simplement. Donc, il y a une adaptation très profonde et très bousculante, on va dire.
Un mot de conclusion, Michael Fessel, peut-être sur le terme qui revient le plus en ce moment, le populisme, à la faveur donc de ce voyage en 1938. Est-ce que le populisme est un terme adéquat pour définir ce qui nous menace, ce qui pourrait nous menacer aujourd'hui?
Selon moi, non. Parce que le populisme comporte des défauts à la fois stratégiques et intellectuels. Stratégique parce qu'il abandonne un peu trop facilement le peuple à ceux qui sont des démagogues en réalité. Et puis deuxièmement, c'est peut-être plus grave parce que le populisme, ça suppose qu'il y a en face, c'est le discours même populiste, suppose un clivage entre l'élite et le peuple. Et ce clivage est un clivage extrêmement discutable. Je veux dire à la fois pour ceux qui le remettent en cause et pour ceux qui discutent à partir de lui. D'abord parce que le peuple est plus nombreux, donc à terme, cela ne garantit pas, je dirais, une victoire des antipopulistes. Et puis, deuxièmement, parce que en politique, les clivages qui me semblent être les plus pertinents, ou le clivage le plus pertinent, celui avec lequel on peut malgré tout avoir un débat qui ne finisse pas en guerre civile, c'est le clivage droite-gauche fondée sur des différences ou des oppositions de principes politiques plutôt que ou sociologiques ou alors fondée sur une idée de la pureté du peuple ou de la corruption des élites qui, au fond, le concept de populisme, quoi, qu'on le revendique ou qu'on le critique, c'est une moralisation de la politique.
Michael Fessel, récidive 1938 aux presses universitaires de France. Gérard Courtois, vos chroniques La fin d'un monde, chronique politique, c'est chez Timpus.